Alors, je m'appelle Yannick Etier, vous êtes dans le cours « La mort dans la cité », qui est une introduction, en quelque sorte, à la pensée de Francis Schaeffer, philosophe chrétien. Et puis, ce matin, on devrait, j'espère, couvrir les leçons 2 et 3. Mais c'est deux leçons qui sont très près l'une de l'autre, là. C'est des sujets, pratiquement le même sujet. Ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est si vous avez inscrit votre nom sur la liste d'envoi la première semaine du cours, je vous demanderai de réinscrire votre nom dessus. Parce que la liste d'envoi a disparu à la fin du premier cours. Et donc, si vous n'êtes pas sur la nouvelle liste, vous n'y serez pas. Est-ce que ça va, David? OK. Juste un instant. OK, voilà, un petit problème technique. Donc, c'est ça. Alors, on vous demande d'inscrire votre nom sur la liste d'envoi, même si vous l'aviez fait le premier dimanche. Parce qu'on a oublié les feuilles à l'arrière, puis on ne les a jamais retrouvées. Donc, ça serait la raison pour laquelle, si vous n'avez pas reçu, en fait, le courriel cette semaine, c'est que vous n'êtes pas sur la liste d'envoi, parce que Manon l'a envoyé à ceux qui s'étaient inscrits la deuxième semaine. Donc, simplement ajoutez ça, s'il vous plaît. Et vous pouvez trouver aussi sur le site web là, les pistes audio du cours. Donc, si vous manquez certaines leçons, libre à vous d'aller suivre le cours en audio avec les notes en PDF en plus. On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien éternel notre Dieu, on vient dans ta sainte présence, ô Dieu, pour t'adorer ce matin. Et à l'instant même, Seigneur, on veut t'adorer en plaçant nos cœurs disponibles devant toi pour recevoir tes instructions, tes enseignements, Seigneur. On veut apprendre, Père, à regarder le monde, la société qui nous entoure avec tes yeux pour aimer, Seigneur, pour comprendre, pour avoir compassion, pour dire ce qui doit être dit, pour aimer, Seigneur, afin que le plus grand nombre puisse te connaître et marcher avec toi. Je demande, Seigneur, de bénir cet ensemble, viens ouvrir notre intelligence pour qu'on puisse saisir ces choses et que tout cela ne demeure pas que de la théorie dans nos cœurs, dans nos vies, mais que ça nous pousse, Seigneur, à prier, à intercéder, à pleurer, à parler, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Donc, ce que Francis Schaeffer fait, je l'ai mentionné à quelques reprises, là, dans le fond, il prend le prophète Jérémie, qui est un prophète de l'Ancien Testament, et puis, il prend l'introduction de la lettre de Paul aux Romains, qui est une des lettres du Nouveau Testament, pour jeter un regard sur la société moderne, notre société contemporaine. Comment est-ce que Dieu la regarde? Puis, la particularité pour nous, c'est qu'on a parfois l'impression que la Bible ne s'est jamais adressée à une société qui est au même endroit que la nôtre, puisque les sociologues, chrétiens ou non, vont souvent définir notre époque au niveau de l'Occident, comme une époque post-moderne, mais plus que ça encore, post-chrétien. Et donc, on peut avoir l'impression que, où est-ce qu'on va se tourner dans la Bible pour voir comment est-ce que Dieu s'adresse à cette société-là? Mais en fin de compte, ce que Schaeffer nous dit, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a eu une forme de post-christianisme, parce qu'Israël, sans dire christianisme, là, Christ n'était pas venu, mais de post-Jéhovah, si on peut dire. Donc, il y a déjà eu ça. Puisqu'Israël était le peuple de Dieu, puis à un certain moment donné, ils avaient pratiquement entièrement rejeté Dieu, abandonné Dieu, et Dieu les avait livrés à eux-mêmes. C'est une forme de post-christianisme aussi. Et lorsque Paul s'adresse aux Romains, bien, il s'adresse, dans le fond, dans son approche, il s'adresse à une culture qui ne connaît pas du tout le Dieu de la Bible. Au départ, le début de la lettre aux Romains commence comme ça. Et donc, lorsque nous, on se tourne vers notre société, qu'on parle avec des gens qui, en principe, je veux dire, l'Occident a été largement construit sur les fondements philosophiques, éthiques, culturels, bibliques. Puis là, on arrive dans cette culture-là, on parle avec les gens, puis on se rend compte que, oh, il n'y en a plus de culture biblique, leurs repères ne sont plus les mêmes. Mais dans le fond, on peut se tourner et à la fois vers Jérémie et à la fois vers la lettre aux Romains pour pouvoir voir comment est-ce que Dieu voit cette génération-là. Leçon 2, page 1. Citation de Francis Schaeffer. Notre génération est avide d'amour, de beauté, de signification. Pourtant, une poussière de mort recouvre tout. Comme au temps de Jérémie, nous aspirons à être consolés, mais nous restons sur notre faim. Et donc, ce que Francis Schaeffer développe, c'est qu'il dit, on perçoit très bien dans les réalisations contemporaines, dans ce que nos sociétés construisent comme tissu social, comme tissu moral, comme désir de prendre soin, d'intervenir, même lorsqu'on pense à toute la question environnementale, on voit très bien qu'il y a cette aspiration-là dans le cœur humain de connaissance, d'amour, de sens. C'est là. On veut que notre vie ait un sens, on veut faire des choses grandes, des choses belles. Puis en même temps, il y a cette perte presque complète de points de repère. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on sent chez beaucoup de gens, puis lorsqu'on regarde la société en général, une espèce de besoin d'être consolé, mais sans trouver personne pour nous consoler. Alors l'homme essaie de se construire lui-même, de s'inventer. En effet, le prophète Jérémie exprime le besoin de consolation pour lui et son peuple. Et là, donc, Schaeffer se tourne dans l'Ancien Testament vers le prophète Jérémie. Israël est en déportation. 5 rois successifs en Israël ont rejeté Dieu. Et cela a conduit à la déportation d'Israël, puisque Dieu s'est retiré entièrement, a retiré toute protection à son peuple. Israël a toujours été politiquement une nation petite, géographiquement, au niveau de sa puissance économique. Et donc, c'était vraiment par la grâce de Dieu qu'il subsistait. Mais là, des empires autour grandissent. Dieu retire sa protection. Ils sont entraînés en déportation. Lamentation de Jérémie, qui est le... Jérémie, dans le fond, on a 2 livres du prophète Jérémie. Jérémie, puis Lamentation de Jérémie. Lamentation 1:16, on lit, « C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. » Et ce que Jérémie est en train de dire, c'est que l'Éternel, qui pouvait nous donner la vie, qui pouvait nous consoler, s'est retiré de nous. Et quand Jérémie regarde sa société, son peuple, sa culture, lorsqu'il regarde la situation des Juifs, il dit « Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a quittés. Dieu n'est plus là. » Et on ne peut pas être consolé, parce que c'est lui qui pouvait nous consoler. On ne peut pas trouver la vie, parce que c'est lui qui pouvait nous apporter la vie. J'ai mentionné déjà la semaine dernière dans le catéchisme de Westminster, qui est un catéchisme protestant, je pense qu'il a été formulé au 18e siècle. Et puis, dans ce catéchisme-là, un des premiers articles, un catéchisme, là, dans notre tête, ça sonne comme une affaire catholique, mais un catéchisme, c'est simplement un résumé des doctrines avec les éléments pratiques aussi. Qu'est-ce que cette doctrine-là a comme implication dans notre vie? Et puis, c'est un outil de formation de disciples. D'accord? Quand tu apprenais ça, tu apprenais ce que la Bible enseigne, si le catéchisme était conforme aux Écritures, évidemment. Alors, un des premiers articles dit « Le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui à jamais. » On fait erreur lorsqu'on met tout l'accent toujours sur l'idée que notre rôle, notre but, notre fonction, c'est de glorifier Dieu uniquement. On fait vraiment erreur. Parce qu'on ne représente pas bien le christianisme. L'existence de l'homme ne sert pas qu'à glorifier Dieu. L'existence de l'homme sert au bonheur de l'homme. Dans le plan de Dieu, là, l'être humain est supposé être terriblement heureux. Parce que l'être humain trouve son plaisir en Dieu, comprend à quoi il sert. Il est appelé à être beau, grand, magnifique, comme Dieu est magnifique. Parce qu'on est sa créature, on a été créé à son image. On est là pour incarner dans notre manière d'être en relation les uns avec les autres, dans notre manière de gérer même la création, on est appelé à incarner ces vertus-là qu'il y a en Dieu. C'est extrêmement noble, c'est extrêmement beau comme appel. Et donc, le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui à jamais. Et dans le fond, ce que Schaeffer dit, c'est à partir du moment où une culture se détourne de Dieu, elle perd son point de repère fondamental. Si la raison pour laquelle j'ai été créé, c'est pour glorifier Dieu et pour me réjouir en lui, et que je décide que je n'ai plus besoin de lui, je perds le sens. Je perds mon point de repère. Je n'ai plus de point de repère à ce moment-là. Schaeffer l'appelle notre point de référence. Ainsi, l'être humain a été créé pour glorifier Dieu, il va sans dire, mais aussi pour trouver son bonheur en lui, être en communion avec lui, se réaliser en lui. Fait que lorsque les chrétiens on met un accent très, très fort sur le fait qu'on est là, pour quoi sur la terre? On est là pour glorifier Dieu. Ça peut donner l'impression, et je pense que ça sonne souvent comme ça, qu'on n'est pas appelé à s'épanouir. C'est comme si on est juste des spectateurs. Puis on est simplement là pour contempler la gloire de Dieu. C'est pas vrai du tout. Nous sommes non seulement spectateurs, mais nous sommes des tableaux. Nous sommes des toiles à travers lesquelles le Créateur, l'artiste suprême, exprime tout son génie, toute sa beauté par les tableaux que nous sommes, par les toiles que nous sommes. Donc le tableau en lui-même, même si c'est le fruit, même si c'est l'œuvre d'un génie, le tableau en lui-même, il est superbe. Il est beau. Si l'artiste est génial, le tableau est génial. Et donc, c'est faux, puis c'est dangereux comme présentation du christianisme, de présenter un christianisme qui est simplement dans l'abnégation de soi, la mort à soi. C'est dur, le christianisme. C'est vrai que c'est dur parce qu'on est pécheur. C'est vrai que c'est dur d'être heureux. C'est vrai. Mais c'est pas parce que le but du christianisme, c'est que ce soit dur. Le but du christianisme, c'est que Dieu soit glorifié dans notre bonheur. Fait qu'un des éléments que Schaeffer souligne, où l'Église doit se remettre en question dans ce qu'elle présente, dans ce qu'elle dit à la culture environnante, si votre christianisme à vous, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, la vieille expression, est drabe, si votre vie chrétienne est plate, elle n'est composée que de devoirs, puis votre regard, c'est constamment un regard sur vous-même moralisateur, un regard sur la société moralisateur. Mais je suis désolé, premièrement, ce n'est pas le christianisme que vous présentez, c'est de la religiosité. On est appelé à s'examiner constamment parce que dans notre désir de sainteté, ce qu'on voit souvent en nous-mêmes, c'est tous nos manquements. Puis là, on projette tout ça sur tout le monde autour de nous, sur la société en général. Oui, François? Pardon, veux-tu répéter pour moi? Parce que je... Oui. La vie chrétienne commence par une mort à soi-même. Bien, ça, c'est discutable. On pourrait faire un beau débat théologique là-dessus. Moi, je pense que la vie chrétienne commence par la foi. La foi conduit à mourir à soi-même, puis là, à naître en lui. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, je suis d'accord avec toi aussi, là. Mais je veux juste pousser un petit peu plus loin la réflexion. La vie chrétienne ne commence pas par la mort, elle commence par la vie. Parce que moi, je ne crois pas qu'on est capable par nous-mêmes de croire en Dieu et de se tourner vers Dieu. Je crois que c'est Dieu qui nous attire. Et donc, l'Esprit a déjà commencé une œuvre de vie en nous. Cette œuvre de vie-là va me conduire à mourir à moi-même. C'est vrai. Puis donc, c'est un aspect super important du christianisme. C'est la mort à ma vieille nature. C'est renoncer à mon vieil homme. C'est renoncer à cette vie de mort-là qui était en moi, qui faisait que je regarde une femme puis je ne suis pas capable de faire autrement que de la convoiter, même si ce n'est pas la mienne. Je regarde les biens matériels puis je vois ça juste pour mon intérêt propre au lieu de voir ça comme un objet de bénédiction. Voyez-vous, je transforme tout ce que Dieu a fait de bon en idole puis j'élève ça comme ça, ce sont ces choses-là qui sont... Les passions en moi sont allumées par toutes ces convoitises-là. Donc, il y a une dimension de mort à soi, c'est vrai. C'est vrai. Mais si je reste là, et c'est ça le problème, cette semaine puis la semaine dernière, je parlais avec des gens, puis je mentionnais, je dis, souvent notre difficulté, c'est qu'on garde les yeux fixés sur nous. Puis il y a un temps pour regarder à moi puis me repentir. Mais si je reste là, premièrement, je vais être super découragé du christianisme. Je vais être super découragé de moi-même. Je n'aurai pas de foi pour l'œuvre que Dieu veut faire en moi, puis j'en aurai certainement pas pour l'œuvre que Dieu veut faire dans les gens autour de moi puis dans la société. Parce que je fais de la grosse projection, tu sais. Je me regarde moi, puis je dis, « Man, t'es tellement hypocrite des fois. » Là, je regarde tout le monde, puis je dis, « Ma gang d'hypocrites, vous autres. »« Ah, mais quand est-ce que tu vas regarder Jésus? » Fait que faut que tu lèves les yeux, puis tu regardes à Christ. C'est comme ça que tu vas trouver la foi, puis tu vas être encouragé. Brièvement, Gérard. Oui.
Si on est appelés à mourir à nous autres, c'est pour obtenir le royaume de Dieu dans nos vies. Donc, comme tu as dit tantôt, c'est on exprime une nouvelle vie en nous qui est la joie, la paix, le bonheur et ce que le royaume de Dieu nous donne. Donc, on revit. On
oui.
ne peut pas juste mourir. On meurt au péché, mais on vit à la vie.
C'est ça. Il ne faut pas rester uniquement à cette dimension-là de la mort à soi. Il faut clairement fixer les regards sur cette vie nouvelle qui est en nous. Schaeffer dit, mais l'Église est coupable en ceci, qu'elle présente souvent un christianisme qui est très, très sévère, un christianisme qui n'est pas épanoui, un christianisme qui ne se vit pas dans la plénitude de l'esprit. Et je veux dire, no wonder, il n'y a aucune surprise à voir que des non-chrétiens disent, écoute, c'est vrai que je suis malheureux sans Dieu, mais je te regarde, puis je ne suis pas sûr que je vais avoir en plus la loi de Dieu sur mes épaules. Tant qu'être malheureux, j'aime autant être malheureux sans la loi qu'être malheureux avec la loi. Fait que, vous comprenez? They got a point. Ils ont vraiment raison. Puis je pense que c'est quelque chose de super important. Et donc, on ne doit pas se satisfaire de si peu, puis on doit aspirer à plus en fixant les regards sur Christ et en vivant cette plénitude de vie-là. Ensuite de ça, Schaeffer s'en va vers une autre question qui est pour répondre à cette question-là du besoin d'être consolé qu'il y a dans notre culture puis qu'il y a chez l'être humain. Comme je mentionne depuis quelque temps dans le documentaire « Heureux naufrage », on voit cette expression-là d'un vide intérieur qui est exprimé par des Québécois très connus qui ne sont pas chrétiens nécessairement. Dans le fond, l'être humain n'est pas créé pour être indépendant. On est des êtres fondamentalement dépendants. Ne serait-ce que physiquement, c'est évident qu'on est dépendant. Tout à l'heure, j'ai reçu un texto d'une petite pouponne qui est née hier matin. Cette petite bête-là est absolument extraordinaire, mais c'est clair qu'elle est dépendante. Totalement dépendante. Puis on l'est jusqu'à la fin. Fait qu'on l'est physiquement, mais on l'est relationnellement. Fait que Schaeffer écrit « Tout dans l'ordre des choses créées obéit à un principe de dépendance. » Je suis au bas de la page 1, leçon 2. « Dieu seul ne connaît aucune espèce de dépendance. » Alors, lorsque j'imagine Dieu, puis je dis « Bon, mais Dieu a créé l'univers parce qu'il se sentait tout seul. » J'ai vraiment aucune idée de qui est Dieu. Il n'était pas seul. Le party était beaucoup plus cool avant parce qu'il y avait juste du monde cool au party, la Sainte Trinité avec les anges. C'était cool, OK? Fait qu'il ne souffrait pas de solitude. Dieu seul ne connaît aucune espèce de dépendance. Néanmoins, créé à l'image de Dieu, l'homme a la possibilité d'être en relation personnelle avec celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc l'être humain, par nature, dans ce que nous sommes intrinsèquement, on est des êtres qui avons besoin de ce point de référence-là extérieur. Mais ce point de référence-là, c'est pas simplement un ensemble de principes qui nous dit pourquoi nous sommes sur la terre, c'est une personne. C'est un être parce que nous sommes des êtres profondément relationnels. Et à partir du moment où une culture va rejeter Dieu, elle rejette non seulement son point de référence essentiel, mais elle rejette la personne en qui, par cette relation-là, elle est appelée à s'accomplir. Oui. C'est possible. Oui. Mm-hmm. Alors, mettez joie, si c'est plus clair pour vous. Mettez joie. Fait que l'être humain est appelé à trouver cette joie-là. Ça va? À la page 2, « Et si, bien sûr, le but de cette relation personnelle avec Dieu est de le glorifier, il est aussi logique, j'imagine, que l'homme y trouve un accomplissement global de tout son être. » Ici, l'Église joue un rôle fondamental. Je m'excuse, on a vu ça tout à l'heure. Si du temps de Jérémie, le peuple de Dieu s'était détourné de lui pour se tourner vers des idoles faites de mains d'hommes, il continuait à croire en un créateur et cherchait son sens dans le surnaturel. Donc, une différence qu'il y a avec l'époque de Jérémie puis notre époque, c'est qu'à cette époque-là, les gens vivaient dans une vision du monde où c'était pas une question de savoir s'il y avait un dieu, s'il y avait des dieux. Pour eux, c'était clair qu'il y avait un créateur, il y avait quelque chose. Le surnaturel était évident. Il n'y avait pas la même vision très matérialiste, pas dans le sens des biens matériels, mais dans le sens de la matière. Il n'y avait pas cette vision du monde profondément matérialiste qu'on va trouver aujourd'hui chez bon nombre d'Occidentaux. D'accord? Pas chez tous les Occidentaux, c'est pas vrai, mais chez bon nombre d'entre eux. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Israël à l'époque lorsqu'ils rejettent Dieu? Bien, ils cherchent d'autres dieux. Ils se tournent vers l'Égypte. Ils vont chercher le secours économique, politique de l'Égypte et ils vont adopter les dieux de l'Égypte. Ils vont se tourner vers Babylone, d'accord? Donc, ils vont chercher à l'extérieur. Et ce que Schaeffer nous dit, c'est que dans le fond, ce besoin-là chez l'être humain d'être en relation avec son Créateur, bien, lorsqu'il va rejeter Dieu, il va aller l'assouvir en cherchant à s'accomplir dans d'autres choses. Parce que le besoin, lui, demeure là. Donc, cette quête-là va juste être déplacée vers autre chose, vers d'autres définitions qui vont donner un sens à son existence. Et là où je trouve ça intéressant, ce que Schaeffer dit, c'est qu'il dit, c'est comme si le désespoir devient plus grand, je m'excuse, le désespoir devient plus grand encore pour l'homme moderne. Parce que l'homme moderne, lui, va se définir comme, il va voir le monde comme s'il n'y avait pas de surnaturel. Fait qu'il y a ce besoin-là qui est là, de me réaliser en étant en relation avec mon Créateur. Mais à partir du moment où je dis, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas d'être invisible, il n'y a pas de Créateur, n'existe que ce que je peux saisir avec des équations scientifiques. C'est la seule réalité. Il n'y a pas d'autre réalité. Donc, je me définis, moi, comme une espèce qui est juste de la matière, qui est juste de l'énergie du mouvement. Et à ce moment-là, la quête de sens devient pas mal plus complexe, là. Alors, certains vont se garrocher dans l'hédonisme, le plaisir, la quête du plaisir. Et une fois que la vie ne peut plus t'accorder de plaisir, la vie n'a plus de sens. D'autres vont être encore plus logiques et conséquents. Puis, ils vont dire, finalement, la vie est totalement absurde. La vie ne fait aucun sens. Il n'y a aucun sens à chercher à trouver cette vie. On peut comprendre, on peut étudier l'univers, on peut comprendre comment tout ça se tient, mais tout ceci n'a aucun sens. Il n'y a pas de sens plus grand que celui de manger, dormir, naître, mourir. Tout ça ne sert à rien. On se donne des conventions pour fonctionner ensemble, mais ça mène à rien, cette affaire-là. Parce qu'on est juste de la matière du mouvement de l'énergie. C'est tout ce qu'on est. Et dans le fond, ce que Schaeffer apporte, c'est qu'il dit à ce moment-là, ce désespoir-là, ce besoin d'être consolé en m'accomplissant à travers une relation avec mon Créateur, ce désespoir-là est encore plus aigu à notre époque chez celui qui va avoir cette vision-là du monde. Et personnellement, j'ai l'impression que c'est pas une lubie de chrétien. Là. C'est pas qu'on s'amuse à imaginer ça. Quand je parle avec des gens qui ont cette vision du monde-là, c'est difficile pour eux de trouver un sens profond à la vie. Et donc, souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont accepter de croire dans une forme de surnaturel quelconque, puis ils vont se patenter quelque chose qui va donner un sens. Ils vont au moins s'inventer. Même si, quand tu jases sérieusement avec eux, ils vont dire, ben écoute, ça c'est le mien, ça c'est le tien. Donc, dans le fond, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on essaie de se patenter de quoi de surnaturel, qu'on peut croire un être supérieur à quelque chose, pour s'accrocher à quelque chose. Plusieurs vont quand même aller vers ça. Parce qu'autrement, si on est juste de la matière, bien, c'est difficile de construire un sens et ça entraîne un désespoir profond. Est-ce que ça va? Oui? Schaeffer parle de la solitude absolue de l'homme qui découle de ça. Hop, un petit café qui est apparu derrière moi, je ne l'avais pas vu. L'homme moderne estime en effet que dans l'univers, il n'est aucune présence qui réponde à la sienne, qu'il est en face d'une solitude absolue. Et c'est de là que vient son titre, « La mort dans la cité des hommes, les hommes qui ne regardent qu'à eux-mêmes plutôt que regarder à Dieu. » Il dit « S'entraîne cette culture de mort dans la cité. » Et j'aime bien ce qu'il fait. Il s'en va dans le Cantique des Cantiques. On va y aller juste un instant parce qu'on l'a vu ensemble en 2014. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler dans le Cantique des Cantiques, à un certain moment donné, l'amoureuse est dans sa chambre, dans sa maison, puis elle vient de se parfumer, de prendre son bain, elle se prépare à aller se coucher, puis là, la description, là, c'est « je suis parfumée, je suis belle », tout ça. Puis là, son amoureux, son prétendant, arrive à la porte, cogne à la porte, puis elle commence à faire celle qui se fait désirer, puis là, lui, veut la voir, puis elle dit « non, 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 je m'en vais me coucher, c'est pas vraiment le temps, je suis pas disponible ». Et puis, à un moment donné, elle se rend compte qu'elle est en train de parler seule, parce qu'il okay, l'a pris au mot, puis il est parti. Puis là, elle rentre elle-même dans une détresse, mais où est-ce qu'il est parti? J'ai bien aimé ce que Schaeffer dit. Schaeffer dit, à partir du moment où son amoureux est parti, toute sa beauté, tous ses parfums ne servent plus à rien parce qu'ils ne sont pas faits pour être gardés pour soi. Ils sont faits pour conduire dans une relation. Et donc, tout ça perd son sens. Toute cette beauté-là, cet amour-là qu'elle avait à donner puis qu'elle se refusait de donner, n'a plus aucun sens à partir du moment où celui qui est là pour t'aimer est parti. Et c'est vraiment une belle métaphore, puis je crois que c'est entre autres pour ça qu'il y a le Cantique des Cantiques. C'est pour ça qu'on dit que le mariage chrétien est là pour illustrer la relation entre Christ et son épouse, la relation que Dieu veut avoir avec les hommes. Et à partir du moment où l'aimé décide de refuser celui qui s'en vient aimer, il n'y a plus de sens. Toute cette beauté-là qu'on voit dans la nature, la beauté de l'humanité, perd son sens parce qu'il n'y a plus de personne à l'extérieur de nous, les hommes, avec qui entrer en relation. Donc, je répète, Schaeffer dit, « L'homme moderne estime en effet que dans l'univers, il n'est aucune présence qui réponde à la sienne, qu'il est en face d'une solitude absolue. » Que oui, il y a les hommes, il y a les êtres humains, mais c'est quoi le sens à cette humanité-là au-delà de ça? Au milieu de la page 2, voici ce que Jérémie exprime essentiellement en Lamentation 1,16. « Ô Juifs, vous êtes devant la conséquence inévitable de votre apostasie, privés de la présence du Consolateur, du seul qui puisse vraiment vous consoler. Vous ressemblez à la jeune fille aux mains parfumées dont le parfum a perdu toute valeur, toute la signification, dès l'instant où elle a laissé partir son bien-aimé. » Puis Jérémie, ce qui est le fun avec Jérémie, là, c'est toute cette idée-là que Jérémie regarde son peuple qui a rejeté Dieu, puis il traite tout ça comme vraiment une relation personnelle entre Dieu et son peuple. C'est vraiment une relation entre personnes. Alors dans Lamentation 1,18, on lit « L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à sa voix. » Israël, plus que tous les peuples sur la terre, avait entendu la voix de Dieu, avait entendu l'appel de l'amoureux qui voulait le conduire au désert pour l'épouser, puis le conduire vers cette terre promise, puis le chérir. Et Jérémie dit, l'Éternel est juste. Il est juste de nous avoir abandonnés et de ne plus être là pour nous consoler parce qu'on n'a pas voulu écouter la voix de l'aimé qui s'en venait vers nous. Puis c'est un petit peu tout le point du message la semaine dernière dans Romains 1. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on était justement au fondement de l'Épître aux Romains. Et puis au début, Paul traite toute la question de « Oui, mais ceux qui n'ont pas entendu tout l'Ancien Testament, ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui n'ont pas reçu cette révélation spéciale de la parole de Dieu, qu'en est-il de tous ces gens-là? Est-ce qu'ils ne sont pas, dans le fond, ce n'est pas vraiment de leur faute s'ils ne cherchent pas Dieu? » Puis Paul dit non, dans le cœur de chaque être humain, Il y a ce sens de Dieu qui est là, cette conscience devant la création qu'il y a des ouvrages extraordinaires qui sont là, puis il y a quelqu'un, il y a une pensée, même des gens aussi peu croyants que Einstein l'était quand même croyant à sa manière à lui. Il ne voulait pas reconnaître nécessairement que c'était un être personnel qui était là derrière, mais il n'était pas capable de dire il n'y a personne derrière ça absolument, et on n'est que matière, et tout ceci est sans sens profond. Donc l'apôtre Paul, à son tour, démontre que l'homme, quel qu'il soit, a refusé d'écouter la voix de Dieu et l'a rejetée. Cette voix-là que minimalement j'ai en moi devant la création. Que ferons-nous comme chrétiens devant cette culture qui vit une profonde solitude, une culture qui a refusé d'écouter Dieu et qui se trouve dans une grande confusion? C'est sûr que le jugement de Schaeffer est plus sévère envers notre culture occidentale que, admettons, Paul pouvait l'être avec le monde romain, parce qu'on est vraiment quand même dans un post-christianisme. D'accord? On est vraiment dans une société qui a été construite sans que individuellement on puisse dire, je sais pas, moi, 90% des gens étaient chrétiens. Je pense pas que l'Occident a jamais connu ça. Mais 90% des gens avaient une vision du monde qui était fondée sur le christianisme, avec des notions de bien, de mal, de ce que c'est l'amour, de ce que c'est les relations, ce à quoi on sert, pourquoi est-ce qu'on est là. Définitivement, oui. Et très, très rapidement, les États-Unis, lorsque nous, on a fait environ en 50 ans, là, les États-Unis sont en train de le faire en 15 ans environ. D'accord? On pense, nous autres, qu'on est dans un monde beaucoup plus post-chrétien ici au Québec que le reste des États-Unis, mais c'est en train d'aller à vitesse grand V aux États-Unis. De notre vivant à nous, on va voir une Amérique, à moins que Dieu fasse un réveil extraordinaire, on va voir une Amérique, les États-Unis, aussi post-chrétien que nous, on peut le connaître ou que la France le connaît, parce que ça va beaucoup plus vite. Ce qui a pris presque un siècle et demi en France, ce qui a pris peut-être une cinquantaine d'années ici, aux États-Unis, à cause des communications et tout ça, va à une vitesse extrêmement rapide. Et donc, cette idée que non seulement notre culture est responsable parce que chaque être humain pouvait au moins avoir le sens de Dieu en lui, mais en plus de ça, cette culture-là dans son ensemble rejette ces fondements-là, cette vision du monde-là, et perd donc tous ses points de repère. Et ça va se traduire après ça dans un million d'affaires. Tout ce qui touche l'éthique, tout ce qui touche l'esthétique, tout ce qui touche les rapports moraux, notre rapport au bien matériel, notre rapport à la terre, notre rapport à la science, tout est affecté par ça. Est-ce que ça va, ça? C'est bon? Que faire alors? Qu'est-ce qu'on va faire devant ça? Bien, c'est un petit peu mon message à la fin du message la semaine dernière lorsque j'ai dit « Come on! » Arrêtons de faire comme si on était surpris, les chrétiens. On devrait être 100% lucide sur ça. Fait qu'une des choses qui je pense, choque Schaeffer, c'est le fait que il y a tellement de chrétiens qui sont toujours un peu comme devant la société. Oh, mais regarde ça. Oh, regarde qu'est-ce qui se passe là. Ça n'a pas d'allure. Où est-ce qu'on s'en va? Mais ça a plein d'allure. C'est plein de bon sens. C'est la logique. Ça suit sa course normale. Les choses s'en vont où elles doivent aller. Donc, il n'y a pas de surprise à être là. Cette espèce d'attitude-là de « ça n'a pas d'allure » font qu'au lieu d'aller vers les gens, on est dans une espèce d'attitude défensive. Mais en fait, les choses suivent leur cours logique. Je veux dire, si vous voulez aller plus loin, faites juste vous asseoir là, cet après-midi, prenez une feuille de papier puis posez-vous la question. Ça serait quoi la prochaine chose qu'on devrait voir apparaître dans notre culture à partir du moment où l'être humain n'est que des molécules, que des atomes, que de la matière, et puis que on ne rendra jamais compte de rien. Puis là, vous allez faire des conjonctures, vous allez dire, OK, il y aurait ça qui pourrait arriver, ça qui pourrait arriver, ça qui pourrait arriver, ça qui pourrait arriver. Vous allez les voir apparaître, c'est logique. D'accord? Les sociologues, les philosophes qui étudient où s'en va notre culture font des projections comme ça, puis ils en voient. Puis certains d'entre eux sont super excités parce qu'ils disent « Wow, il y a un million de possibilités. » Je lisais un article d'un chroniqueur hier dans la presse, puis on est entre adultes ici, là. Lui se réjouissait des nouvelles du fait que maintenant des gens peuvent en toute liberté explorer le sadomasochisme. Puis wow, quelle belle époque, on vit beaucoup, beaucoup de liberté. On peut explorer toutes sortes de nouvelles relations humaines, tu sais. OK, mais ce n'est pas tous les non-chrétiens qui se disent « Wow, c'est génial, parce que ça va construire des belles sociétés, ça-là. » Le rapport à la femme, il est super constructif. Fait que, non, il y a plein de philosophes non-chrétiens qui disent « Mais là, il va falloir qu'on s'entende sur deux, trois valeurs, au moins. » là, parce qu'on s'en va nulle part avec cette affaire-là. Juste une valeur de liberté absolue, ben, c'est le chaos. La liberté absolue n'est pas compliquée à concevoir, hein, n'est pas difficile à vivre. Pensez aux choses qui vous choquent le plus actuellement quand vous lisez les médias, puis dites-vous, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est la liberté. D'accord? L'État islamique qui tire des homosexuels d'en haut des toits, qui décapite des chrétiens, qui exploite les femmes comme esclaves sexuelles. Je veux dire, si rien n'a de sens, il n'y a pas grand-chose d'énervant là-dedans. Là. Il y en a juste qui sont plus forts que les autres. Hein? C'est tout. Puis ils profitent de leur liberté. On s'en offensera pas. Nous ne sommes que molécules, énergie et mouvement. Il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Beaucoup de mouvements. Donc, voyez-vous, comprenez, là, c'est pas juste les chrétiens qui s'énervent avec ça puis qui se disent « wow ». Okay? Mais en même temps, ce que Schaeffer nous dit, c'est que c'est pas acceptable pour les chrétiens d'être dans une espèce d'attitude de « my, que ça va mal, je l'avais pas vu venir, celle-là ». Ben, c'est parce que tu ne lis pas assez les journaux et tu ne lis pas assez ta Bible. Fais les deux ensemble, tu vas voir que tes voix venir. On peut toutes les anticiper, beaucoup d'entre eux. Okay? L'être humain est créatif, là. Il y en a peut-être qu'on ne verra pas venir, mais il n'y a pas de surprise. Là. Puis quand je dis ça, c'est justement pour quitter cette espèce d'attitude très moralisatrice qui dit, ben, eux sont tellement comme ça qu'il ne faudrait surtout pas que je m'approche d'eux parce que je pourrais pogner une maladie. T'sais. Ben, tu vas pogner une maladie si tu construis sur le même fondement, je comprends. Mais si tu comprends profondément à quoi tu sers puis pourquoi est-ce que tu es là, il n'y a pas de danger, tu es là pour apporter de l'espoir dans une culture de mort. C'est ça le sens de notre vie. La mort est dans la cité des hommes. Je rappelle la notion de cité des hommes, c'est cette notion grecque. La cité, c'est l'endroit où les êtres humains vivent ensemble, développent des valeurs, un code de relation, bâtit ses relations. Puis ça, c'est la cité des hommes. Et donc, chaque fois où des êtres humains sont ensemble pour bâtir une communauté, on peut appeler ça la cité des hommes dans la perspective grecque des rapports humains puis des sociétés. Et donc, Schaeffer nous dit « La mort est dans la cité des hommes parce que les hommes ont choisi de rejeter l'auteur de la vie, le grand concepteur de cette machine merveilleuse qui est l'être humain. Ceci se manifeste dans les arts, dans la pop culture, dans les innombrables expressions de la pensée humaine. » Fait que Schaeffer va aller jusqu'à dire « Tout ce que l'être humain fait, d'une manière ou d'une autre, si on cherche attentivement, va être entaché de cette culture de mort-là. » Même s'il y a encore des choses absolument extraordinaires que l'être humain fait parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, puis l'être humain est encore capable de choses tellement belles. Si Dieu a livré les hommes et des sociétés entières à elles-mêmes, c'est qu'il fait reposer son jugement sur elles. Tout comme Dieu avait présidé à la déportation de Jérusalem, de même son retrait de notre culture lui assure d'être livré à sa folie. C'est tout le point de Romains 1, versets 17 à 32. Il est de la plus haute importance que les chrétiens considèrent l'histoire des hommes de la perspective de Dieu, habité par cette conviction profonde que Dieu juge les hommes et les nations et que l'homme livré à lui-même mettra au monde une culture de mort puisqu'il choisit la fin de l'homme dans son sens le plus profond. L'homme comme être qui est appelé à plus grand, à plus beau, plus extraordinaire parce qu'on est appelé à être comme Dieu, à refléter Dieu à partir du moment où je dis on n'est que matière, c'est la fin de l'homme. C'est la mort de l'être humain, pas dans son sens physique, animal, mais dans son sens le plus beau, le plus noble. L'espoir pour nos contemporains se trouve en Dieu seul et dans une communion réelle avec Dieu par la voie unique qu'a ouverte son Fils Jésus-Christ. Les chrétiens doivent en être absolument convaincus, et ils se doivent de lire les temps avec une profonde lucidité. Ça a l'air assez sombre, hein? Mais si ça ne va pas bien, il faut dire « t'as un cancer », puis après ça, on va arriver avec les traitements. Mais si on fait juste dire « ouh là là, tout va bien », mais c'est ça. Ça va dégénérer très rapidement. Fait que vous allez voir, dans la leçon 3, Schaeffer est encore en train d'établir le pronostic, le diagnostic sur le patient, sur cette société-là. Puis vous allez voir aussi tout à l'heure dans le message dans Romains, on fait ça aussi, on termine cette section-là dans la lettre aux Romains où on prend une bonne mesure et de la religion et de ceux qui vivent sans religion pour voir que tous les hommes, finalement, on est pas mal tous pareils. Leçon 3, le message du jugement. Ça, je vous dirais que c'est un aspect super important. Il faut vivre avec ça, il faut porter ce message-là, puis il faut apprendre à le porter comme Dieu le porte. Autrement, on va le faire, soit qu'on n'osera pas adresser ça, ou soit qu'on va le faire comme des moralisateurs. Jérémie, à une époque si ancienne par rapport à la nôtre, a apporté un message complètement d'actualité, encore de nos jours, et particulièrement pour notre société. Je mentionne au début, le surnom de Jérémie, c'était ça, c'était le prophète qui pleure. C'est joyeux comme ministère, hein? C'était le prophète qui pleure, parce que comme j'ai mentionné, son ministère est intervenu à la suite. Il a vu 5 rois subséquents qui ont régné les uns après les autres rejeter Dieu. Et donc, lui voit, comme je vous dis, Jérémie n'est pas là, puis dit, « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? » Non, un après l'autre, il voit faire ça, puis il voit très bien où ça s'en va. On a appelé Jérémie le prophète qui pleure parce que son ministère en fut un de larme sur un peuple qui périt. Dans la lettre aux Hébreux, là, je vais juste vous résumer ça, mais c'est quand même intéressant. Puis on ne peut pas être sûr de ça, OK? Dans la lettre aux Hébreux, il parlait des témoins, puis il parlait de ceux qui ont souffert pour porter le message de Dieu aux hommes. Puis il y a un passage assez troublant qui dit « D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Parlant des prophètes, de ceux qui annonçaient le message de Dieu au peuple d'Israël. L'histoire de l'Église, fait que quand je parle d'histoire de l'Église, c'est qu'on n'a pas de manière vraiment d'être sûr de ça. Mais plusieurs des supplices qui sont mentionnés là, on est capable d'identifier certains des prophètes qui les ont subis. Celui qu'on ne peut pas du tout identifier, c'est celui qui a été scié. On n'a pas de manière, avec l'Ancien Testament, de l'identifier. Et donc, la tradition, l'histoire de l'Église, comme je vous dis, on ne peut pas être sûr, dit que Jérémie a été mis en prison. Ça, on le sait, les Écritures nous le disent. Donc, il a été pris à partie par son peuple. Ça, c'est très, très clair. L'histoire de l'Église dit que la fin de sa vie, on l'a enfermé dans un tronc d'arbre creux, puis on a scié l'arbre. Est-ce que c'est ça? Il pourra nous compter ça. Je pense pas qu'il va y avoir de cicatrices, mais il pourra nous compter ça de l'autre bord. Mais la tradition veut que ce soit lui le prophète qui a été scié. Ça ferait du sens avec le genre de ministère qu'il a eu. Ce qui est clair, c'est que son ministère, ça a été un ministère de souffrance parce que le message qu'il avait apporté à son peuple, c'est un message extrêmement dur. Dans Jérémie 1:10, alors que Dieu établit son ministère, voici ce qu'il lui dit. Regarde, c'est Dieu qui parle à son prophète, il établit son ministère et dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour porter un message, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et dans le fond, ce que Schaeffer veut souligner, c'est que dans ce message-là que Jérémie devait apporter, avant de pouvoir planter et construire, rebâtir, il fallait qu'il l'arrache et qu'il le détruise. Parce qu'il fallait qu'il adresse la rébellion des hommes. Il fallait qu'il présente le jugement de Dieu sur les hommes. Et c'est un aspect difficile, mais c'est un aspect fondamental du message qu'on doit apporter, nous, aux gens. Les gens ne peuvent pas comprendre l'Évangile s'ils ne comprennent pas qu'ils sont vraiment dans le pétrin. Notre société ne pourra pas recevoir l'Évangile si elle ne saisit pas qu'elle est vraiment dans le trouble. Je ne peux pas simplement dire « j'ai un Dieu bon, tu as fait 3-4 gaffes, garde, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce puis on va rouler ensemble. » Parce que si je fais ça, j'apporte une espèce de Dieu conseiller qui est là pour te dire « ben gars, si tu faisais ça, je vais donner 3-4 trucs, tu es déjà parti dans la bonne direction. On voudrait surtout pas que tu changes de direction, ça s'en va très, très bien. Mais tu as besoin de quelques conseils, je vais t'aider un petit peu, puis tout devrait se placer. » C'est pas exactement comme ça que Dieu regarde le monde. Il dit, non, tu t'en vas complètement dans la mauvaise direction, puis il faut que tu fasses un U-turn, copain. Fait que c'est pas avec 2-3 conseils qu'on va y arriver. Faut que tu réalises que tu te garoches dans le mur. C'est là que tu t'en vas. Tout à l'heure, on s'en venait, puis on regardait la passerelle qui est tombée la semaine dernière, passerelle piétonnière. Là. Bon, moi, j'ai une tête de petit gars, fait que je ne peux pas faire autrement que de voir un jump de Evil Knievel chaque fois que je vois ce qu'ils ont laissé. Ils ont laissé juste les deux rampes. Ils ont enlevé complètement la passerelle du centre. Fait que moi, je vois déjà la moto qui fait le saut. Mais vous comprenez que si j'étais sur mon bike puis je me préparais à faire ça, c'est pas avec 2-3 conseils puis juste de dire, regarde, pèse plus fort sur le gaz, tu devrais y arriver. Tu es en ligne droite, je pense que tu es correct. Le meilleur conseil que vous pourriez me donner, c'est, hey, le cave, ça t'en va te tuer. Vous comprenez? C'est pas avec des petits conseils que vous allez me sauver la peau, là. Et donc, ce que Schaeffer dit, tout simplement, c'est qu'il dit, t'as pas le choix, il faut que tu apportes un message de jugement. Il faut que tu dises aux gens comment Dieu voit la société, puis il faut que ces gens-là, à un certain moment donné, disent, tu me dis ça sur la société, mais dans le fond, tu es en train de me dire que c'est comme ça que Dieu me regarde. Parce qu'autrement, il n'y a pas de message d'espoir à donner, c'est juste des conseils, c'est juste des trucs. Et c'est un des endroits, Schaeffer est en contact, je l'ai mentionné au début dans l'introduction sur son histoire, c'est un monsieur qui n'était pas chrétien. Pendant ses études, il faisait des études en philosophie, tout ça. Il s'est dit, il faut que je me tape la Bible, il faut que je lise ça. C'est fondateur à l'Occident. Il a lu la Bible au complet, il a fermé ça, il était chrétien. Fait que, puis là, il a commencé son ministère. Il est allé étudier en théologie. Il a été dans le ministère pastoral aux États-Unis, dans des églises presbytériennes. Ensuite de ça, il a fait un voyage pendant 5-7 ans. Il donnait des conférences en Europe. Il est tombé sur le dos. Parce que là, on parle de l'Amérique des années 70-80, puis on parle de l'Europe francophone des années 70-80. Si aujourd'hui, les transformations profondes culturelles vont très, très vite, mais l'Europe était déjà là où nous, on va être dans 10 ans à bien des égards, d'accord? Où les États-Unis vont être dans 10 ans à bien des égards. Donc, lui est tombé sur le dos, puis là, il est rentré en contact avec des églises protestantes qui avaient complètement perdu le message de l'Évangile, parce qu'elle ne voulait plus annoncer ce message-là du regard que Dieu pose sur la société. Il voulait juste donner 2-3 conseils. Fait que le message se transforme, le message ça devient, regarde, notre société a été construite sur des valeurs chrétiennes. Fait que peut-être que si on veut que ça aille bien, il faudrait quand même retenir quelques éléments du message du Christ. Si vous étiez là, il y a quelques semaines, on a passé un tout petit extrait vidéo justement du documentaire « Un naufrage » où on avait, Denis Arcand, le réalisateur, qui touchait un mot. Puis c'était quand même touchant de voir qu'il était très, très, très interpellé par les évangiles. Mais ce qu'il retient fondamentalement des évangiles, c'est cette forme d'amour-là qu'il voit en Jésus. C'est déjà un bon point de départ, puis c'est génial, puis c'est le fun de pouvoir jaser avec les gens en partant de là. Mais si essentiellement c'est ça qui l'a saisi, bien, il manque encore l'essentiel. Ce message-là d'amour, c'est un message d'amour qui est un message d'espoir pour te sauver d'une situation désespérée. Ce serait le fun pour moi de m'asseoir avec lui et de dire, est-ce que tu vois aussi le désespoir? Est-ce que tu comprends d'où vient ce désespoir-là? Fait que Francis Schaeffer, lorsqu'il est arrivé en Europe francophone dans les années 70-80, il a été confronté à une église protestante qui avait décidé de donner juste des conseils. Arrêter d'annoncer le jugement de Dieu. Juste essayer de dire, ben, c'est correct, tu sais. Peut-être que si tu pèses plus fort sur le gaz, tu ajustes un petit peu ton coup de roue, puis tu donnes un peu de kick, tu vas peut-être le réussir ton saut. Pas besoin de débarquer du bicycle, puis tu n'as pas besoin d'arrêter tes projets. Et donc, nous, individuellement, on peut tomber dans le même panneau. Parce que c'est un message dur à livrer. Pas un message le fun. On a l'impression des fois qu'on peut prendre les gens dans leur course puis qu'on peut juste venir comme ça à côté de toi un petit peu avec la Bible puis tranquillement, on va les amener. Mais c'est là que tu t'en vas, tu sais. Fait que t'es mieux de pousser fort longtemps, là. Parce qu'après ça, il faut qu'ils disent, aïe, aïe, chaque matin, je réalise que j'ai de la difficulté à marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la sainteté. Non, non, eux autres, ils partent puis ils disent, OK, je suis peut-être pas comme Dieu, mais il y en a un petit peu, là. Pas gros. Aide-moi juste à aller un petit peu plus près, un petit peu. Plus comme Dieu. On va s'arrêter ici, les amis, avec une dernière citation. Au haut de la page 2, le christianisme n'est ni romantique, ni veule, ça veut dire qu'il n'est pas naïf, mais au contraire réaliste et rude. Ainsi, la Bible nous transmet le message de Jérémie dans tout son réalisme, et il incombe à l'Église de prêcher ce message aujourd'hui, si elle veut être de quelque utilité à notre génération. Puis ce qu'on va voir ensemble, ce que je trouve qui est difficile pour les chrétiens, et Francis Schaeffer le fait super bien, c'est qu'il faut que je sois capable de regarder ma société avec un jugement aussi sévère que Dieu pose, comme il regarde mes péchés à moi aussi, puis il faut que je sois capable de regarder mes péchés à moi avec le même regard que Dieu. Mais il ne faut pas que je tombe dans la posture du religieux qui dit « eux autres, puis nous autres, puis ça, sont comme ça », puis qui va dans une espèce de détachement. Au contraire, ce regard-là très lucide, si je suis chrétien, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ce qui est censé générer, c'est énormément de compassion. Donc, il n'y a pas de surprise. Je ne suis pas comme... Non, non, je comprends très bien où s'en va cette société-là. Il n'y a pas de mépris non plus. Il n'y a pas un rejet fondamental. Puisque je suis ici sur la terre, Christ est venu sur la terre, il est venu vers nous par amour, par compassion, puis on est là, l'Église est là sur la terre. Quand le temps du jugement final viendra, l'Église ne sera pas là pour prêcher l'Évangile. D'accord? Mais la réalité, c'est qu'on est là, non pas pour se distancier de cette société-là par un jugement, par un mépris, mais pour aller constamment vers eux, parce qu'on n'a pas perdu nos points de repère. On sait que notre point de repère, c'est Dieu. On sait qui on est. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, nous voulons t'adorer. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole qui est limpide, Seigneur. Ta parole qui est riche, qui ouvre l'intelligence, Seigneur. Ta parole qui m'aide à me voir moi-même. Et ça me donne une bonne dose d'humilité, Seigneur. Mais qui m'aide aussi à voir la société avec tes yeux. Je te prie, Père, de nous aider à comprendre vraiment comment tu aimes et comment tu regardes la société. Comment tu aimes et comment tu regardes les gens, Seigneur, afin qu'on puisse avancer comme Église, comme chrétien, avec les yeux grands ouverts, en étant profondément réaliste, et puis en même temps rempli d'espoir en Jésus-Christ et d'amour et de compassion. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Merci. Donc, je vous rappelle, si vous étiez ici simplement au premier cours ou que vous avez inscrit vos noms sur la liste d'envoi seulement le premier dimanche du cours, je vous demande d'aller réinscrire votre nom. Notre feuille de papier a disparu. Et donc, si vous n'avez pas reçu de courriel cette semaine, c'est parce que vous n'êtes pas sur la liste d'envoi. Allez ajouter votre nom, s'il vous plaît. Merci.